Est-ce que votre collègue Françoise Virlouvet va... Voilà, parce que comme je comptais la mettre, enfin la faire désigner secrétaire de séance, je vois qu'elle est pas là. C'est un peu... Je vais mettre Monsieur Richard Moncorsini. Voilà. Tout à fait. Ah oui. Bon, alors Monsieur Normani. Présent. Voilà. Personne n'est contre. Allez, adjugé. Je vous fais part des procurations que j'ai reçues. Ben, j'en ai reçu qu'une. C'est Madame Isabelle Latar qui a donné procuration à Liliane Diaz. Certains élus m'ont fait part de leur retard, donc Sylvette Gilles qui est en commission à la CSAOP qui va nous rejoindre, Elvire Théoki qui a un retard professionnel, et Gérard Thon, lui qui malheureusement au dernier moment il a le dos bloqué, il ne viendra pas du tout. Je vous fais part aussi des remerciements que nous avons reçus. Donc Michel Deverac, Sophie et Stéphane Garcia, Hélène et Emmanuel Deverac ont été très touchés par nos marques de sympathie et de soutien lors du décès de Madame Monique Deverac. De même, la famille de Pierre Bérangier, Janine Bérangier, Françoise, Philippe et Elisabeth nous remercient pour notre présence, nos témoignages de sympathie et d'affection lors du décès de Pierre Bérangier. De même, la famille de Sylvain Plumard donc, nous remercie pour notre témoignage d'amitié et d'affection lors du décès donc, de Sylvain Plumard. Toujours dans le même ordre d'idée, malheureusement, la famille de Marie-Cécile Jung-Kunz a été très touchée par le marque de sympathie et d'amitié que nous leur avons témoigné. Et enfin, en ce qui concerne Pierre Simeone, qui lui est également décédé, trésorier du club de pêche, donc la famille était très touchée par les marques de sympathie que nous avons témoigné. Et je vous indique aussi, pour ceux qui ne le sauraient pas, que l'une de nos deux centenaires, Thérèse Chabert, est décédée aussi et a été inhumée avant-hier. Nous passons au procès-verbal de notre dernière séance. Est-ce qu'il appelle de votre part des remarques ou des questions ? Pas de questions. Alors, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Et nous passons au premier point de l'ordre du jour. Procédure de marché à procédure adaptée pour la fourniture et l'acheminement d'électricité et services complémentaires. Attribution du marché 2021-2026. Rapporteur Hervé Auriac.
L'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergie a été engagée dès 1996 avec l'adoption d'une directive européenne concernant l'électricité. Cette directive, aujourd'hui transposée en droit interne, définit les délais et modalités d'ouverture des marchés nationaux de fourniture d'électricité. À ce jour, les articles L337-7 et L337-9 du Code de l'énergie fixent les obligations des acheteurs publics en matière de fourniture d'électricité. Il en résulte l'échéance du 31 décembre 2021 pour la mise en concurrence des contrats de fourniture d'électricité. Selon les critères mentionnés ci-dessus, il convenait de procéder à la mise en concurrence des contrats de fourniture d'électricité pour les bâtiments et équipements publics. Le bureau d'études de New Energy a été retenu comme assistant à maîtrise d'œuvre. Un marché public de fourniture courante et de services pour l'achat et la distribution d'électricité a donc été lancé en ce sens, avec une date de remise des offres fixée au 28 septembre 2021 à 12h30. Le marché a été alloti comme suit. Le lot numéro 1, BT, qui veut dire basse tension, inférieur à 36 kV ampère pour 34 PDL, et PDL veut dire point de livraison. Pour pour l'éclairage public et 37 pour les bâtiments. Le lot numéro 2, toujours pareil, BT, supérieur à 36 kV-ampères pour des points de livraison correspondant à 21. Deux prestataires ont répondu à cet appel public à la concurrence. Le bureau d'études a procédé au classement des prix et à l'analyse technique des dossiers. Et au vu de cette analyse, la commission d'appel d'offres du groupement a décidé, en date du 29 septembre 2021, d'attribuer le marché, le lot numéro 1, à Engie, cette société étant la mieux disante pour un budget total de 276 523,95 euros, sur une durée de 3 ans. Et le lot numéro 2, à Gedia. Gedia, qui est aussi une entreprise autonome, hein, qui fournit aussi bien de l'eau que d'électricité, il faut le savoir, principalement dans l'Eure et Loire, hein, du côté de Dreux. Cette société étant la mieux disante pour un budget total de 272 024,90 centimes d'euros, également pour 3 ans. Il est donc proposé de notifier aux dites sociétés l'acceptation de leurs offres pour une durée maximum de 3 années à compter du 1er janvier 2022, selon les budgets totaux indiqués, calculés iso-consommation, c'est-à-dire sur la base d'une consommation identique à l'année N-1, avec les mêmes puissances et les mêmes types d'abonnements, et selon la grille de tarifs définie par type d'abonnement dans le document joint annexe de la présente délib, aucun engagement de consommation minimum ou maximum n'étant imposé à la commune. Pendant la durée du présent marché, les nouveaux abonnements éventuellement souscrits par la commune se verront appliquer les mêmes conditions tarifaires. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à attribuer le marché de fournitures courantes et de services pour l'achat et la distribution d'électricité pour le lot 1 à Engie, pour le lot 2 à Gedia, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents en ce sens. Les dépenses correspondantes seront imputées en fonctionnement au chapitre 11, article 60-612, correspondant à énergie et électricité du budget communal. Et vous avez en pièce jointe la consultation et le contrat. Est-ce qu'il y a des remarques à formuler de votre part ?
Monsieur Normani.
Merci, monsieur. Le bouton, peut-être ? Non plus.
Aimé ? Si, il est là.
Si.
Il est là, non ?
Ah. Il était sur mute.
Et oui, il était sur mute.
Quand on a sa vue jaune, c'est sur mute.
Ah, d'accord.
Désactivé.
On
n'est pas informé.
Ah, cette opposition, bon bref. Bien, on reforme le bouton électrique. Monsieur le maire, cette délibération me pose quelques interrogations. Vous avez travaillé en 2015 sur un contrat d'énergie de la ville avec les communes de Bolène, le CCAS de la ville de Bolène, la commune de Piolenc, la commune de Vaison-la-Romaine, dans le cadre d'un regroupement d'achats et pour la période 2016-2018. Le montant total de ces contrats négociés était alors de 319 386 euros. Le montant total de ce contrat négocié aujourd'hui s'élève à 548 547 euros, ce qui représente une augmentation de 229 161 euros, 71% d'augmentation sur 7 ans. Ma conviction est que vous faites certainement de votre mieux, mais que ce mieux n'est pas suffisant pour baisser la facture énergétique que vont payer les Camaretois. Que les objectifs que vous vous fixez pour maîtriser cette augmentation sont très en dessous de ce que la situation exige. Enfin, les moyens que vous mettez en œuvre me semblent étranges. Avez-vous abandonné la gestion avec les autres partenaires ? Pourquoi avez-vous changé de bureau d'études ? Quels sont les critères que vous avez imposés dans la demande d'appel d'offres pour la période 2019-2021 ? Les tarifs ont certes augmenté, mais qu'en est-il pour les consommations de référence de l'année N-1 ? Quelles mesures envisagez-vous de prendre rapidement pour maîtriser au mieux et diminuer la consommation énergétique de notre ville ? Merci pour vos réponses qui devraient nous éclairer sur ce sujet.
Monsieur Normani, dans un premier temps, je vais passer la parole à monsieur le DGS qui a suivi le dossier de très près, puis je terminerai ensuite.
Merci. Oui,
Oui, alors concernant le groupement de commandes, effectivement, nous avons été à l'origine avec la ville de Vaison, les villes de Bollène et de Piolenc, d'un groupement de commandes initié en 2015 qui a été reconduit en 2017 ou en 2018. La ville de Vaison étant la tête de pont parce que ses services techniques et administratifs et financiers étaient étayés pour prendre la tête de ce type de groupement. Il se trouve que il y a eu pas mal de flottements au niveau de la commune tête, c'est-à-dire Vaison, c'est-à-dire quand nous sommes arrivés en juillet et le bureau d'études chargé de faire les études sur 19 communes, puisque le groupement comptait 19 communes, n'avait pas encore été mandaté. Donc on a sollicité avec les communes de Piolenc et du Chaux des réunions rapides avec Vaison. Les réunions ont lieu en visio, mais fin juillet, on ne voyait toujours rien venir. Donc ce qui veut dire qu'on prenait un gros risque en poursuivant avec le groupement, puisque concomitamment, comme vous l'avez remarqué, les tarifs du gaz et ensuite de l'électricité commençaient à exploser, et ça a été le cas jusqu'à maintenant, et ça continue à monter. Donc les communes Camaret, mais également Piolenc et Uchaud, nous avons décidé de ne plus suivre le groupement pour pouvoir lancer à temps un marché, qui est celui qui vous est présenté ce soir. Et je crois qu'on a eu raison, puisque à ce jour, le marché de Vaison n'est toujours pas lancé. C'est-à-dire qu'ils vont lancer un marché peut-être dans les semaines qui viennent, mais ils vont attribuer un marché en plein hiver. C'est-à-dire au moment où non seulement le prix continue d'augmenter du fait des marchés mondiaux, mais en plus avec l'augmentation qui arrive tous les ans en période hivernale. Donc on est sorti de ce groupement et je crois qu'on a pas mal fait, puisque certes il y a une augmentation que vous avez constatée mais qui est liée au cours du marché, mais en gros on a limité la casse en lançant notre propre marché. Ensuite, concernant l'intérêt du groupement. L'intérêt du groupement, il était limité sur les tarifs, mais il permettait surtout d'avoir un coût pour le bureau d'études chargé de monter le marché et de faire les analyses qui était moindre pour les communes. C'est vrai que là nous avons payé le bureau d'études plein pot. De mémoire, j'ai pas les chiffres en tête, on a dû payer 3500 euros le bureau d'études, alors qu'auparavant on le payait aux environs de 2000 euros. Ça c'est l'incidence sur les coûts. Concernant le coût de l'électricité, on n'a pas, quand on voit les marchés qui sont attribués dans le même laps de temps que le nôtre, par rapport à des communes plus importantes ou même par rapport au groupement, je pense pas qu'on ait perdu beaucoup à partir seul. Voilà, le surcoût, il est évidemment dû au cours du marché. On a même notre ancien prestataire sur le marché qui va se terminer fin décembre, qui était Total, qui nous avait demandé de reporter l'échéance du marché parce qu'il ne voulait pas répondre. Il savait que dans le laps de temps très court entre le moment où on a demandé le retour des offres et le moment où on allait attribuer le marché, les prix allaient encore augmenter. Ils nous ont dit, écoutez, nous on ne répondra pas si vous ne reportez pas le marché. On n'avait bien évidemment pas reporté le marché puisque ça nous aurait engendré un coût supplémentaire, parce que chaque jour les tarifs prennent un peu plus. Voilà. Donc certes, il y a une augmentation mais évidemment on va prendre des mesures. On a déjà commencé à prendre des mesures, hein, parce que je vous rappelle que sur les cours actuels du marché, 2019, 222 000 euros, 2020, 196 000 euros de dépenses d'électricité, et là nous sommes en novembre, nous sommes à 138 000 euros de dépenses d'électricité. C'était des tarifs constants. Donc ce qui veut dire que les mesures qu'on a prises dans les bâtiments, le passage en LED systématique dès que l'on fait des travaux et le remplacement systématique des LED quand on fait du remplacement sur l'éclairage public, commencent à porter leurs fruits, ainsi que les mesures mesures d'économie qu'on a pu lancer en direction des services. Par exemple, en mairie, là, les détecteurs, etc., etc. Et donc, ce programme va être poursuivi et même accéléré pour atténuer au maximum l'effet de l'augmentation des tarifs. Concernant le bureau d'études, on n'a pas changé de bureau d'études, on a continué à travailler avec le même bureau d'études, celui qui nous accompagnait avec les deux précédents marchés du groupement, et celui qui nous accompagne au quotidien, justement, pour nous conseiller sur les négociations, les contrôles au quotidien des consommations, les contestations que nous pouvons faire auprès du prestataire, puisqu'il nous arrive régulièrement de demander des rectifications sur les factures. Ça nous est encore arrivé il y a quelques semaines. Voilà, donc le suivi est fait et il va être amplifié justement pour essayer d'atténuer l'augmentation de ces tarifs.
Voilà, monsieur Normani, est-ce que nous avons répondu à vos interrogations, monsieur Normani?
Alors, oui, partiellement. Quand vous me dites que vous gardez la même société, moi j'avais remarqué que vous aviez Pro Énergie comme bureau d'études et que là c'est New Énergie. Alors peut-être qu'ils ont changé de nom, hein, c'est possible. Mais...
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est le même. C'est vraiment le même bureau d'études. Ça, je vous le confirme.
Ils ont changé de nom. Bon, ok, d'accord. Ensuite, sur ce que vous me proposez comme solution, comme je vous dis, je vous ai pas dit qu'il n'y en a pas. Je vous dis qu'elle me semble pas à la hauteur des événements, puisqu'effectivement, l'électricité va augmenter. C'est clair. Donc, il faut faire.
Elle a déjà augmenté.
Oui, elle est en train d'augmenter et elle augmentera encore, puisque bon, on nous le promet de partout. Donc, il n'y a pas de problème sur le sujet. Par contre, bon, il faut donc prendre des décisions importantes et drastiques. Genre Piolenc, vous voyez. Je ne sais pas, trouver des endroits pour faire des centrales photovoltaïques, peut-être, sur le territoire, il y en a. C'est une piste, mais il peut y en avoir d'autres.
Tout à fait.
Voilà. Et je pense qu'avec le plan de relance aujourd'hui, on peut avoir des aménagements sur l'économie d'énergie, sur tous les bâtiments importants de la ville. Donc il me semble qu'il devrait y avoir beaucoup plus, et que vous devriez nous donner beaucoup plus d'informations sur ce que vous allez envisager de faire pour diminuer la consommation, puisqu'on ne pourra pas, a priori, baisser les tarifs.
Donc voilà, au niveau de la baisse de la consommation, comme cela vous a été dit, nous remplaçons un maximum d'éclairage traditionnel par de l'éclairage LED, ce qui est déjà appréciable. C'est un investissement relativement important, mais à la longue, on va s'y retrouver. Et comme vous l'avez indiqué, nous creusons aussi le secteur du photovoltaïque, en corrélation cette fois avec la communauté de communes Aigouvaise en Provence, puisque dans le cadre du plan de relance, il y a des financements prévus pour aider les communes à s'équiper en équipement photovoltaïque. Un bureau d'études a été missionné par la communauté de communes. Un certain nombre de sites sur la commune de Camaret ont été pressentis sur le plan technique, sur le plan juridique, par rapport par exemple à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, et sur le plan financier. Alors c'est sur le plan financier en fait que il y a de plus d'interrogations, puisqu'il semblerait, même si on n'a pas encore tous les résultats de cette étude, il semblerait quand même que sur le plan financier, ça ne soit pas si intéressant que cela, selon les sites choisis. Donc nous verrons, et nous passerons d'ailleurs vraisemblablement une délibération dans le prochain conseil municipal pour faire le bilan de cette étude et des choix que nous pourrions faire en matière d'équipement photovoltaïque sur la commune. Voilà, tout ceci, encore une fois, pour baisser la consommation. Monsieur Boncorsini, vous vouliez vous expliquer.
Non, bon. J'allais vous poser une question, mais c'est une question de Béotien. Je pense que vous êtes quand même aux affaires depuis maintenant 7 ans. Et quand je considère que, malgré l'augmentation du prix de l'électricité, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais l'augmentation est tellement importante que je me dis que vous ne pouvez pas avoir fait de réduction très importante au niveau de la consommation. Parce qu'autrement, si vous n'en aviez pas fait, qu'est-ce que ça serait ?
Voilà, mais c'est quelque chose d'extrêmement progressif. Il y a un niveau de consommation qui est incompressible, malheureusement. On explore différentes pistes, par exemple l'éclairage public, la nuit. Alors faut-il le supprimer, faut-il l'atténuer, le supprimer complètement, ça peut poser des questions de sécurité routière, de sécurité tout court.
Voilà, mais ce sont des pistes que nous explorons et nous espérons arriver à une baisse significative de la consommation. Mais franchement, nous sommes assez bien engagés dans cette voie. Monsieur Normani.
Oui, pour terminer, si vous avez besoin de l'opposition pour vous aider dans vos recherches, il n'y a aucun problème, monsieur.
Ah, mais je suis tout à fait à l'aise avec ça, et si l'opposition a de bonnes idées, elles seront bonnes à prendre pour l'intérêt général et des camarades toi, et nous sommes à l'écoute des propositions de l'opposition qui, je m'en félicite, ne se contentent pas à une opposition systématique, mais qui se positionne sur une opposition constructive. Ce qui est bien, je pense, pour tout le monde, d'ailleurs. Enfin, ça, après, chacun fait comme il veut. Voilà. S'il n'y a plus d'intervention, nous allons mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient, donc l'opposition, adoptée à la majorité. Monsieur Savin, excusez-moi, a voté pour, puisque c'est en conformité avec ce qu'il a voté en commission d'appel d'offres. Voilà. Merci. Dossier numéro 2. Admission non-valeur des créances irrécouvrables. Rapporteur Liliane Diaz.
Le service de gestion comptable de Vaison-la-Romaine a transmis un état de produits communaux à présenter en non-valeur au conseil municipal, ainsi qu'une liste de créances dites « éteintes » pour décision d'admission en non-valeur dans le budget de la commune. Il est rappelé qu'il appartient au comptable public de procéder, sous contrôle de l'État, aux diligences nécessaires pour le recouvrement des créances. Créances irrécouvrables, créances communales pour lesquelles le service de gestion comptable n'a pu aboutir dans les procédures de recouvrement. Le montant total des titres à admettre en non-valeur, détaillé ci-après, s'élève à 481,38 €. Je vous fais gré de la liste des titres 2017 et 2018. Non, mais c'est celui-là. Le bon, c'est celui-là. Le 154, on l'a enlevé.
C'est le bon.
Ça, oui. Non, c'est bon.
C'est bon.
C'est bon. Ensuite, c'est celui-là qui est bon. Créance éteinte. Créance communale qui reste valide juridiquement en la forme et au fond, mais dont l'irrécouvrabilité résulte d'une décision juridique extérieure, définitive, qui s'impose à la collectivité créancière et qui s'oppose à toute action en recouvrement. Elle constitue donc une charge budgétaire définitive et doit être constatée par l'Assemblée selon la liste ci-dessous. Le montant total des titres à admettre en non-valeur, détaillé ci-après, s'élève à 1 051,57 €. Donc ce sont deux montants de loyer septembre et octobre 2020 pour Dianou Siliane et l'effacement total de la dette a été fait en commission de surendettement. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le décret numéro 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, vu le décret numéro 98-1239 du 29 décembre 1992 indiquant que toutes les opérations visant à recouvrer des créances ont été diligentées par le service de gestion comptable de Vaison-la-Romaine dans les délais légaux. Vu le décret 98-1370 du 29 décembre 1992 indiquant que, lorsqu'elles sont irrécouvrables, les créances de l'État mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 susvisées sont admises en non-valeur par l'ordonnateur qui a émis l'ordre de recette. Vu l'état des produits irrécouvrables dressés par le service de gestion de comptable de Vaison-la-Romaine, considérant qu'il est désormais certain que ces créances ne peuvent plus faire l'objet d'un recouvrement en raison des motifs évoqués par le service de gestion comptable, entendu monsieur le maire, il est demandé au conseil municipal d'admettre en non-valeur les créances irrécouvrables et éteintes pour la somme globale de 1 532,95 €, détaillée comme suit. 481,38 € pour les créances irrécouvrables à l'article budgétaire 65-41 et 1 051,57 € pour les créances éteintes, article budgétaire 65-42. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2021 aux articles et chapitres prévus à cet effet.
Merci. Y a-t-il des questions, monsieur Savin?
Oui, concernant les créances irrécouvrables, je ne m'étendrai pas sur les impayés scolaires, mais sur le recouvrement des frais de capture de chiens. ces propriétaires ne sont pas en mesure de payer les 90 euros
En général, c'est parce qu'on ne les a pas retrouvés.
Ah, d'accord.
Voilà. Quoi qu'il en soit, le retrouver ou pas, le trésor public n'a pas été.
Errant, je veux bien, mais il y a le nom des propriétaires.
Oui, mais n'a pas été en mesure de recouvrir la dette.
D'accord. Ouais, bizarre.
Un courrier simple, un courrier recommandé, un second courrier recommandé, et après, vous laissez tomber, il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas de moyen simple pour recouvrir. Si c'était un fonctionnaire ou d'État ou un fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, on prendrait immédiatement le trésor public prendrait immédiatement sur son traitement.
D'accord.
Là, en l'occurrence, apparemment, c'est que c'est pas possible.
Là, c'est pas possible.
Les moyens de droit ont été utilisés administratifs pour essayer de recouvrir la créance. Ça n'a pas été. Ça n'a pas avancé. Le ministère de l'administration française.
Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Rapport numéro 3, approbation de la convention de financement avec la région académique PACA suite à l'appel à projet pour un socle numérique pour l'école primaire des Amandiers, rapporteur Sylvette Gilles.
Je fais le ménage. Merci. En lien avec la direction de l'école et les services académiques, la commune souhaite équiper les 5 classes de l'école élémentaire des Amandiers d'écrans numériques interactifs, les ENI, accompagnés de l'ensemble du matériel informatique, logiciel et installation réseau nécessaires à leur bon fonctionnement. Le coût total estimatif du projet est de 21 961,20 € TTC. Dans le cadre du plan de relance 2020-2022, la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur est en mesure de financer ce projet à hauteur de 12 577 €, selon les modalités prévues dans la convention de financement annexée. Au titre de l'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires, volet continuité pédagogique. Vu la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et notamment les articles 239 à 248 relatifs au plan de relance, vu le décret 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement, vu l'arrêté du 20 décembre 2016, portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'État, vu le bulletin officiel de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, numéro 2, du 14 janvier 2021, relatif à l'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires dans le cadre du plan de relance continuité pédagogique, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la dite convention de financement. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de financement au titre de l'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires, volet continuité pédagogique, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier, d'imputer les dépenses et les recettes au budget de la commune. Et vous avez la convention de financement annexée. Avez-vous des questions ?
Alors, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 4. Approbation de la convention de cofinancement avec les communes de Caderousse, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon et Jonquière pour l'acquisition de matériel au profit de la psychologue scolaire. Rapporteur Sylvette Gilles.
Les communes de Caderousse, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Jonquière et Camaret-sur-Aigle ont décidé de s'associer pour le financement de l'acquisition d'un matériel de test WPPSI 4 à destination de la psychologue scolaire. En effet, les tests actuellement utilisés par la psychologue scolaire sont aujourd'hui obsolètes. Le coût de ce matériel s'élève à 1588,74 € TTC. Il est proposé de répartir ce coût entre les 5 communes, à savoir 320,74 € pour la commune de Camaret et 317 € pour chacune des autres communes. la commune de Camaret se charge de procéder à l'acquisition du matériel. Dans commun accord avec les communes de Caderousse, Châteauneuf, Courtaison et Jonquière, elles procéderont au remboursement en hauteur de 317 € sur titre de recette. Il est proposé au conseil municipal d'acter le principe de cofinancement entre les 5 communes par une convention. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de cofinancement avec les 5 communes concernées relative à l'acquisition de matériel au profit de la psychologue scolaire, de procéder à l'acquisition du dit matériel, d'accepter le remboursement des communes de Caderousse, Châteauneuf-du-Pape, Courtaison et Jonquière à hauteur de 317 € par commune, d'autoriser monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier et d'imputer les dépenses et les recettes au budget de la commune. Et vous avez en annexe la convention de cofinancement. Avez-vous des questions ?
Oui, j'ai une question.
Oui.
Monsieur Normandie ?
Oui, j'aurais une question, mais qui est d'ordre général. Pourquoi c'est pas fait avec les communes de la CCAOP ?
Parce que la psychologue scolaire travaille avec ces communes, avec ces communes-là. Ça n'a rien à voir avec, avec la communauté de communes.
C'est son secteur d'intervention.
Oui. Voilà.
C'est pas logique.
Merci pour votre réponse.
Voilà, donc, bel exemple de coopération intercommunale. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 5. Modification du règlement intérieur de la bibliothèque municipale, rapporteur Francine Deneux. Je précise que, comme vous avez pu le remarquer, il y a 3 délibérations à la suite qui traitent du même objet. Donc, si vous n'avez pas d'inconvénient, et vous gagnez un petit peu de temps, nous allons les traiter toutes les 3 à la fois.
En courant.
Le règlement intérieur de la bibliothèque présente des dispositions générales, les modalités d'inscription des adhérents, les conditions de prêt, les recommandations et les interdictions. Rédigé et approuvé lors de la municipalisation de la bibliothèque en 2010, le règlement intérieur a depuis été modifié lors de la constitution d'un fonds musique, puis suite à la mise en place de prêts de liseuses électroniques aux usagers et lors de l'agencement du regroupement intercommunal avec les bibliothèques de Sérignan, Huchot et Violès, modifiant les conditions de prêt des documents. En 2021, dans une démarche de développement de son offre culturelle et pédagogique, la bibliothèque souhaite diversifier ses collections. Il est ainsi mis en place un secteur ludothèque consistant en la mise à disposition de jeux de société pour les usagers. Ainsi, le paragraphe 3 portant sur le prêt des documents précise les modalités d'utilisation de ce nouveau support dans son article 11. Chaque foyer peut emprunter 2 jeux pour une durée de 15 jours contre remise d'un chèque de caution dont le montant est déterminé par délibération du conseil municipal. En cas de non-restitution, de détérioration ou de perte du matériel, le chèque de caution sera encaissé et ne sera en aucun cas remboursable. Le personnel de la bibliothèque est chargé de l'application du règlement intérieur et vu le code général des collectivités territoriales, il est demandé au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur de la bibliothèque qui remplace et annule le précédent. Alors je continue sur la suite, hein, voilà. Alors, la bibliothèque municipale constitue et organise des collections de documents dont l'un des objectifs est le prêt à domicile auprès de ses usagers. Ainsi, la bibliothèque autorise à ses adhérents l'emprunt à domicile de jeux de société pour le bon fonctionnement de ce service. Cet emprunt est soumis à la remise d'un chèque de caution. Par délibération du 22 avril 2010, la commune de Camaret a créé une régie de recettes pour la bibliothèque. L'article 1er de cette régie précise son objet, à savoir l'encaissement des droits d'inscription et de reprographie de documents et des recettes relatives aux manifestations organisées par la bibliothèque. Il est proposé au conseil municipal d'ajouter à l'article 1er la mention suivante, encaissement de la caution pour le prêt de jeux de société. Vu le code général des collectivités territoriales, il est demandé au conseil municipal d'approuver la modification de la régie de recettes de la bibliothèque qui remplace et annule la précédente. Alors, en ce qui concerne la mise en place de la caution, La bibliothèque municipale constitue et organise des collections de documents dont l'un des objectifs est le prêt à domicile auprès de ses usagers. Dans le cadre du développement de son offre de services, la bibliothèque souhaite mettre en place un secteur ludothèque. Cette offre consiste en la mise à disposition de jeux de société éducatifs au sein de la bibliothèque. Avec ce service, la bibliothèque autorise à ses adhérents l'emprunt à domicile des jeux proposés. Les jeux doivent être restitués complets et en bon état. Afin de faire appliquer cette modalité, le prêt est conditionné à la remise d'un chèque de caution, encaissé en cas de détérioration, de perte ou de non-restitution du matériel prêté, ainsi que spécifié dans le règlement intérieur de la bibliothèque. Il est proposé de fixer le montant de la caution au coût moyen d'une boîte de jeu, soit 20 euros par jeu. Vu le Code général des collectivités territoriales, il est demandé au conseiller municipal d'approuver la mise en place de la caution pour le prêt de jeux de société et de la fixer à 20 euros par jeu. En cas d'encaissement, cette recette sera imputée à l'article 7062 du budget principal et perçue par la régie bibliothèque.
Voilà, donc depuis quelques années, la bibliothèque de Camaret, en collaboration avec d'autres bibliothèques d'autres communes, diversifie son offre culturelle. Et donc il s'agit simplement de mettre les règlements et les procédures administratives en conformité avec cette nouvelle offre, ces nouvelles offres. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Alors je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Et donc nous passons au dossier numéro 8. Concours annuel de décoration extérieure de Noël. Approbation du règlement intérieur. Rapporteur Francine Deneux.
Alors, c'est au sujet du concours annuel de décoration extérieure de Noël, donc approbation du règlement intérieur. Monsieur le maire propose d'organiser un concours gratuit de décoration extérieure de Noël réservé à l'ensemble des habitants de Camaret, à l'exception des membres du jury, dans le cadre de la décoration des maisons et des jardins. Les inscriptions seront ouvertes chaque année dans le courant du mois de novembre. Le passage du jury est prévu dans le courant du mois de décembre et les résultats seront dévoilés le lendemain du délibéré. Seules les décorations qui contribuent à l'esprit de Noël seront retenues par le jury et la notation sera effectuée en fonction de 4 critères. La densité de la décoration, l'intégration de la réalisation au cadre, l'harmonie et de la qualité des éclairages, le style de décoration, couleur, éléments du décor. À cette occasion, les prix seront attribués à chaque participant comme suit. Premier prix, lot d'une valeur d'environ 150 euros. Deuxième prix, lot d'une valeur de 100 euros. Troisième prix, lot d'une valeur d'environ 80 euros. Des lots de consolation surprise pour tous les autres participants. Les lots seront composés de produits achetés chez les commerçants de Camaret. Vu le budget primitif de la commune, considérant la nécessité d'encadrer les modalités de ce concours à l'aide d'un règlement intérieur, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'organisation de ce concours annuel de décoration extérieure de Noël, d'approuver le règlement intérieur définissant les modalités du concours, d'attribuer aux participants les prix suivants. Premier prix, valeur de 150 euros. Deuxième prix, valeur de 100 euros. Troisième prix, une valeur de 80 euros. Et les lots de consolation surprise pour tous les autres participants.
Voilà, ce concours de décoration de Noël ayant connu un grand succès l'année dernière, que la première fois que nous l'avions lancé, nous avons décidé de le reconduire. Y a-t-il des questions ? Monsieur Normani.
Oui, monsieur le maire. Je suis pour que les personnes qui en aient envie puissent effectivement profiter de Noël et faire valoir leur imagination. Par contre, peut-être pourriez-vous rajouter un critère sur l'imagination, la sobriété, de manière à permettre à ceux qui ont moins de revenus et donc moins de consommation de pouvoir aussi s'exprimer
et peut-être mettre un lot aussi pour celui qui aura la, toujours pareil dans la même idée, la meilleure imagination, car la fête de Noël, ce n'est pas que de l'éclairage à mettre là, et ce n'est pas que du consumérisme maximum, ça peut être aussi de l'imagination. Et pour laisser la place à tous, peut-être que vous pourriez mettre un critère et un prix pour ceux qui ont fait preuve d'imagination et dans cette période difficile de basse consommation.
Alors, pourquoi pas? Alors, j'ai participé, moi, au jury, donc j'ai visité toutes les installations, et ce que